Coton-tige FM.
Coton-tige FM.
Sur Alto.
C'est le printemps, le soleil brille, les oiseaux chantent. La vie prend des allures de fête, peut-être encore plus aux Glières qu'ailleurs. En effet, depuis 2 ans, le rassemblement organisé par l'Association des citoyens résistants d'hier et d'aujourd'hui n'a pas eu lieu. L'effervescence est donc à son comble quand je débarque ce samedi 28 mai dans la petite bourgade de Haute-Savoie. Projections, conférences, débats, stands de libraires, d'associations, de syndicats, chorales, mais aussi buvettes et restaurations locales. Tout est réuni pour passer un bon moment d'échange et surtout d'émulation collective. Recontextualisons un peu. Le rassemblement des Glières est né de la volonté d'anciens résistants face à toute récupération politique, qu'elle soit du fait de Nicolas Sarkozy en 2007 ou d'Éric Zemmour plus récemment, de défendre l'idée fondatrice du Conseil national de la résistance et des jours heureux. Depuis lors, pas un mois de mai sans que ne converge vers Torrent une armada de militants venus honorer la mémoire de ces résistants aujourd'hui pour la plupart disparus. Mais la relève est bien présente, et d'une journée commémorative de témoignages, celle qui se tient toujours le dimanche sur le plateau, le rassemblement s'est mué en forum ouvert aux idées qui ne trouvent que rarement leur place dans les médias dits « mainstream ». Pour quelques esprits chagrins, résister se résumerait au plaisir de s'opposer pour s'opposer, sans raison tangible ni argument valable. Rétorquons-leur que savoir dire non, c'est déjà un bon début dans la vie. Gauchistes, anards, libertaires, cocos, anarcho-syndicalistes, marxistes, une belle brochette d'étiquettes qui, dans nos esprits formatés, résonne le plus souvent avec chaos, péril, voire danger. Toutefois, en me baladant dans Torrent, au milieu des intellectuels présents ce jour-là, mais aussi des militants, artistes, organisateurs, bénévoles, m'est apparue une toute autre définition de la résistance. Non pas comme acte d'opposition limité et limitant, mais bien plutôt comme projet chaleureux, humain et émancipateur. En bref, un acte de joie. Un grand oui à la vie, pour citer Nietzsche. Me vient alors une question. Serions-nous si anesthésiés par le discours général ambiant, celui qui nous voudrait faibles et soumis, qu'il faille des moments, hors du temps, comme celui du rassemblement des Glières, pour enfin respirer un autre air? Celui des Alpes, certes, mais surtout ce vent de liberté et d'espoir qui définit toute forme de résistance, qu'elle soit d'hier ou d'aujourd'hui. Ma journée commence avec la projection du film « À demain, mon amour », en présence du réalisateur Basile Carré-Agostini, de Monique et Michel Pinson-Charlot, connus et reconnus pour leur travail de sociologue de la bourgeoisie.
Question, mais qui sont donc les feignants d'Emmanuel Macron ?
On aimerait bien le savoir.
Dis pas que tu travailles.
Est-ce que tu veux que je fasse d'autre ?
Je vous adore. Tout simplement, je vous adore.
J'aurais quand même préféré qu'il nous invite dans son château.
En faisant le travail dans les beaux quartiers, on trouve les causes de ce qui fait la misère des autres.
Je trouve qu'il y a vraiment une très bonne ambiance aujourd'hui.
Oui.
Il y avait la noblesse, le camp.
Alors, créer une nouvelle noblesse.
Ah oui, mais il faut aussi la foutre dehors.
Dis quoi ? Espèce de con.
Oh. 65 000 policiers et gendarmes ont été déployés sur toute la France.
Ça nous fait peur aussi, parce qu'on ne sait pas où on va.
Tu me vois partout.
Je t'entends.
Si on n'est pas mort, on a le droit de boire un coup.
Ça me l'aille.
Ouais.
Quand ?
Ce soir ?
On n'a qu'à décider que tu l'as bien mérité. On dirait deux petits vieux qui sont foutus alors que la révolution commence.
Faut arrêter de rêver, il n'y a pas de révolution.
On voit plus très bien ce qu'effectivement on a à perdre.
Je te souhaite une bonne fête de l'humanité.
Quand vous vous réveillez le matin, est-ce que vous pensez aux millions, c'est des millions d'êtres humains qui meurent de faim ou des suites de la faim chaque année? Est-ce que vous pensez à ces enfants? Est-ce que vous pensez aux Burkinabé qui ont faim, non? Vous pensez à la journée qui vous attend, vous pensez à la petite robe que vous avez envie de vous acheter. Eh bien, dans la tête des grands bourgeois, c'est pareil. Vous n'existez pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, ben, c'est bon. Alors, ben, la théorie du ruissellement, hein, Michel me dit, c'est du pipeau. Mais voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est comme, je sais pas, l'histoire du petit Jésus qui est né sans que la Vierge ait touché Joseph, enfin, des contes, la main invisible du marché. Il y a plein de contes comme ça immatures dont on se dit, mais comment est-ce possible que les êtres humains puissent croire à des choses pareilles? C'est-à-dire qu'ils se... Honnêtement, c'est pas bien que je parle comme ça, mais je me dis quand même, c'est du foutage de gueule, ils se foutent de notre poire. Hein, voilà. Aujourd'hui, plus qu'hier, il n'y a pas d'autre solution que la révolution.
Ils sont là. Je vais vous poser aussi une question. Il y a une phrase très belle que vous dites dans le film. Je ne sais plus exactement le contexte, mais vous dites juste la joie, tout simplement. Et vous revenez souvent, je trouve, autour de cette question de la joie. Et puis on voit dans votre couple une joie, enfin, moi qui m'a vraiment bouleversé, pas. Et du coup, je me demandais, j'imagine que les choses ne sont pas si volontaristes que ça, mais quand même, d'où vient cette envie, voilà, d'être à la fois en lutte, en joie, et comment réussir à continuer là-dedans, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment. Ben, l'un des filous du film, quoi. Donc, de vous montrer en combat et en joie en même temps. Voilà, j'avais envie de vous entendre réagir là-dessus.
Ah ben merci, c'est avec joie que je vais répondre à cette question. oui, parce que avec Michel, quand on s'est rencontrés, on s'est rencontrés sur des bases amoureuses, sociologiques, mais aussi politiques. Et ça marche, le micro ?
Ça marche.
Et aussi politiques. Et on s'est rendu compte que très vite... On s'embêtait dans des réunions chronophages, que on trouvait que, enfin, c'est pas du tout pour dénigrer, mais on était comme ça. Et puis on s'est dit, ben nous, on veut pas passer notre vie à s'embêter. Quand en plus on est devenu chercheur au CNRS, on a vu que le poids institutionnel du CNRS allait redoubler de chronophagie, de réunions emmerdantes, de temps mort, de temps de que nos corps allaient être corsetés, que nos pensées allaient être segmentées, qu'on allait être détruits de tous les côtés. Et du coup, comme notre couple fonctionnait bien, qu'on aimait discuter ensemble, qu'on aimait travailler ensemble, du coup, on l'a pas théorisé. Hein, c'est aujourd'hui qu'on le théorise. Mais si vous voulez, ce qu'on a toujours voulu être, Michel et moi, c'est vraiment des chercheurs vivants. C'est des chercheurs qui partent dans les beaux quartiers avec leur petit sac du pouvoir, c'est d'ailleurs toujours le même que j'ai sur mon dos, avec des notes, des chercheurs qui cherchent le contact physique parce qu'ils ne veulent pas. D'ailleurs, nous n'en avions pas les moyens puisque nous n'avons pas fait de bonnes études. Nous sommes rentrés au CNRS par effraction administrative. Donc, ça, rien n'était très positif pour nous. La seule chose qui était positive, c'était la solidarité de notre couple et l'envie très profonde de s'amuser, mais à en découdre, à mettre à mal les capitalistes, à mettre à mal les gens de pouvoir et de richesse, les exploiteurs, les prédateurs, ceux qui nous mènent la guerre, ceux qui nous pourrissent notre vie, qui pourrissent notre humanité, qui nous empêchent la solidarité. Et donc voilà, et je pense sincèrement, on n'est pas seul à penser ça, mais voilà, qu'on ne gagnera que dans la joie.
Donc je vous disais au début, pendant l'introduction, qu'une des réponses existentielles à cette grande question qui est comment fait-on pour continuer à lutter quand on perd, en fait, j'ai trouvé une première réponse dans l'amour, c'est une partie du titre. Et il y a une autre partie de la réponse que j'ai trouvée un peu plus lentement, en côtoyant Monique et Michel, mais aussi leurs camarades, dont vous. Il y a 4 ans, en 2018, j'étais venu filmer Monique et Michel au Glière, et ce mot résistant m'est vraiment apparu ici, quand j'écrivais les dossiers pour chercher des subventions, tout ça. Et voilà, j'ai fait, quand je décrivais Monique et Michel, j'avais oublié ce mot. Enfin, ce mot m'est apparu ici. grâce à vous. Donc. Et ce que j'ai compris, c'est que la puissance existentielle de Monique, de Michel, de vous, vient, vous pouvez me contredire si je me trompe, mais vient aussi de la sensation d'appartenir à une tradition de la lutte. C'est-à-dire qu'il y a des combats qui ont commencé avant nous. On profite de notre passage sur Terre pour le continuer, ce combat, pour le faire vivre, pour garder la flamme allumée, dans un moment des balanciers de l'histoire qui n'est franchement pas à l'avantage du prolétariat, on peut le dire, tout en imaginant que ça pourra changer. Et il faut alimenter ça, voilà. Il faut, c'est le « à demain » qui est le début de ce titre et qui veut dire... continuons, et puis il y a cette scène de fin, tant qu'on n'est pas mort.
Et l'alcool quand même, c'est génial.
Ouais, c'est la joie. Ouais, pour préciser, voilà, moi je suis très d'accord avec ce mot de joie que tu as mentionné, que moi j'ai caractérisé par l'amour, voilà, c'est voilà, la vie en fait. Voilà.
Il faut s'éclater, il ne faut pas se faire chier que le militantisme soit un truc emmerdant, ça doit être que de la joie. Et de l'énergie positive, et on y arrivera. On a tout pour y arriver. Franchement, hein, Brecht demandait de qui dépend l'oppression, il répondait de nous. De qui dépend-il qu'elle cesse? De nous. Et c'est pas parce que c'est difficile que nous n'osons pas, c'est difficile parce que nous n'osons pas. Ça, c'est Sénèque, et c'est il y a longtemps. Donc vous voyez que le problème... Bien sûr qu'on peut sortir de ce film salaud de riche, mais il faut savoir aussi retourner véritablement le projecteur sur nous-mêmes et aller dans le sens de la générosité, même si on n'est pas d'accord, hein, on peut ne pas être d'accord, mais on s'en tape de ça. Il faut qu'on respecte les envies des uns et des autres et que tous ensemble, on fasse la révolution avant qu'il ne soit trop tard. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas envie de plaisanter, le rendez-vous est historique, le chaos climatique est là, et ça ne serait pas possible qu'on continue à s'entre-déchirer comme des... Enfin, vraiment, ce n'est pas possible. Imaginons que le rassemblement à gauche soit majoritaire aux élections législatives et que l'Assemblée nationale soit un ensemble de députés de gauche importants, qui donc aurait accès, par exemple, à la présidence de la commission des finances de l'Assemblée nationale, qui donne accès à tous les secrets de Bercy. Et je peux vous assurer que si j'ai caressé un rêve dans ma vie, c'est celui-là. C'est celui-là. Et imaginons ça, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, je fais des hypothèses, hein, je ne suis pas prophète. Ce sont des hypothèses de sociologues que je vous livre, parce que si jamais ça se passe comme ça, vous vous direz, ben, elle n'est pas bête, la petite. Et ben, il va y avoir tout un récit. Bernard Arnault va s'enfuir aux États-Unis, Bolloré va s'enfuir sur l'île Maurice. Enfin, ils vont tous partir avec des récits, avec BFM TV, toutes les chaînes de télévision, de radio, qui vont nous faire peur. Le chaos, les riches s'en vont, on n'a plus d'argent, c'est atroce, et c'est ça. Et ben, il va dire, alors, donc, le chaos, je dissous l'Assemblée nationale. Et comme il y aura eu tout ce chaos qui aura été organisé, après, on va repartir sur de nouvelles bases. Alors, je ne sais pas ce qui se passera, mais je vous le dis, non, s'il y a ce scénario qui se met en place, vous devez savoir, et toi, Ulysse, comme tous tes petits camarades de classe, comme tous les jeunes, toutes les générations, que vraiment, ce sont des parasites. Et que l'argent... En fait, c'est de la monnaie de singe, hein, puisque maintenant, vous le savez, que c'est les banques centrales qui ne sont plus au service des États, mais exclusivement au service des marchés financiers. Franchement, on marche sur la tête. Ils nous racontent des récits totalement immatures. Ne vous laissez plus jamais faire. Et voilà. Et donc, faites attention à ce récit. Les riches vont partir. Il n'y aura plus d'argent. D'abord, l'argent est déjà parti. Ils nous volent. Ils évitent l'État de multiples façons. Aujourd'hui, là, au Glière, il y a plein d'interventions d'économistes, de gens, de savants engagés qui montrent qu'ils pillent l'État par tous les bouts. Ce sont des vautours. Et donc l'argent, il est parti. L'argent, ils le voleront tout le temps. Les riches, on n'en a pas besoin, ce sont des parasites. C'est nous qui faisons fonctionner l'économie réelle. C'est toi qui es en train d'apprendre, de faire des études. Et c'est de toi qu'on aura besoin, Ulysse, et de vous tous. Et ça, il faut avoir cette fierté. Et cette fierté, nous, Michel et moi, on l'a. Basile l'a aussi et l'a montré avec ce film. Elle doit tous nous habiter. Nous sommes capables. Nous avons tous les moyens de réussir. Alors, putain de merde, faisons-le.
J'ai changé de nom, la clandestinité m'a happé, une soif de révolution. Vivre dans l'indifférence m'était insupportable. J'ai dit au revoir à ma famille et suis parti vers l'insurmontable. Traverser des villes, des guerres et des montagnes. Perdu beaucoup mais peu si le peuple gagne. Mon corps gît dans la mémoire de mes frères d'armes. Partisan, je garde mon fusil, je vous remets mon âme. Résistant d'hier, d'aujourd'hui et demain. Militant fier qui prend son destin à deux mains. L'une sur la machette, l'autre sur un bouquin. Viens, le vent se lève autant que se lèvent nos poings. Partisans du grand soir ici et maintenant. Des lendemains qui chantent, des soleils levants. Des veilles de passage à l'action où l'on se dit adieu. De lutte d'entraide, d'espoir en un futur radieux.
J'ai changé 100 fois de nom. J'ai perdu femme et enfant. Mais j'ai tant d'amis.
Dirige ensuite vers le forum des associations où je retrouve Evelyne Niveau de la librairie Jean-Jacques Rousseau.
Et on est là parce qu'on nous a sollicité avec nos choix de livres et d'auteurs qui sont venus et on a répondu présent bien sûr. parce que voilà, ça correspond à notre éthique aussi d'être là à présent pour ces journées commémoratives sur ce qui s'est passé au Glière.
Mais du coup, il faut peut-être nous en dire un petit peu plus sur votre coloration à la librairie Jean-Jacques Rousseau, puis aussi votre façon de fonctionner.
Bah, c'est une librairie qui actuellement est en tant que coopérative. D'ailleurs, ceux qui tiennent le stand aujourd'hui sont tous des bénévoles, soit de la librairie, soit de l'association des amis de la librairie, de la DAL. Et effectivement, la librairie Jean-Jacques Rousseau a une certaine couleur, d'émancipation citoyenne, d'éducation populaire. Donc on a les livres qui vont bien pour ce genre d'initiative et pour d'autres. Mais on propose aussi des romans et on propose tout un rayon pour les enfants. Voilà, des BD sociales. Voilà, donc notre place, elle est bien.
Et elle se situe où, cette librairie ?
Alors, la librairie, elle est située à Chambéry, au 64 rue Croix d'Or. Et on accueille tous les passagers, lecteurs, férus de toutes sortes de littérature.
Et cet après-midi, vous avez du beau monde hein, sur votre stand. Je crois voir Bernard Friot, là, juste derrière nous. Qui d'autre ? Il y aura des dédicaces, des rencontres, des moments de signature, des échanges.
Alors, l'organisation n'a pas prévu que ce soit sur le stand de livres. Nous, on vend les livres et les auteurs ont un stand particulier, enfin, tous les conférenciers, pour dédicacer leurs livres. Mais aujourd'hui, on a Bernard Friot qui n'intervient qu'à 19h et qui est donc bienvenu sur notre stand pour vendre ses différents livres.
Donc c'est une première participation de la librairie au rassemblement des Glières, donc il faut peut-être le rappeler, hein, c'est organisé par les citoyens résistants d'hier et d'aujourd'hui, qui est une association, hein, si je ne me trompe pas. Je te laisse peut-être encaisser, non ? Faire vivre la librairie un peu. Librairie itinérante, militante et itinérante.
Tout à fait, c'est tout à fait notre rôle.
Bah là, ce matin, je sors de la projection avec le couple Pinson-Charlot, ouais. Donc on est vraiment dans le militantisme et puis l'amour qui les soude pour continuer à militer malgré le désespoir généralisé. Ouais. Cet après-midi, il y aura Bernard Friot sur le régime assurantiel et puis je pense aussi tout ce qui est salariat à vie. Il y a aussi David Dufresne, un pays qui se tient sage. On est quand même du gros militantisme. Alors,
voilà, et ça correspond tout à fait à l'image de la librairie où on est ouvert à ce genre de débats, de conférences, et on en fait d'autres, hein, des points de vente comme ça, et ça nous plaît bien. Et on a ce qu'il faut comme livre pour répondre à la demande, pour tous ces gens qui cherchent des solutions possibles devant cette ingratitude de vie qu'on mène en ce moment, quoi.
Et c'est un bon public de lecteurs, le public militant ?
Oui, en général, oui.
C'est donc, ça marche plutôt bien.
Ça marche plutôt bien.
D'accord. Et les signatures aussi, il y a un petit peu de monde ?
Ben là, je me rends moins compte puisque c'est un peu à part, mais en général, oui, de toute façon, dès que les auteurs ont été bons dans leur conférence, ça amène obligatoirement des lecteurs derrière pour découvrir leurs livres ou ils les connaissent déjà. Hein. Ceux-là, Friot, Pinson, ils sont connus, quoi. Voilà.
Et tu nous disais tout à l'heure, je te tutoie,
oui.
Tu nous disais tout à l'heure que là, aujourd'hui, tu es accompagné des bénévoles de l'association des Amis de la Librairie pour tenir le stand. Vous êtes combien ? Parce que ça fourmille, hein, quand même. Hein.
Là, actuellement, entre midi et deux, on va être 5, mais il y en a deux autres qui se promènent qui vont nous relayer cet après-midi. Oui, on est à peu près autour de 5 à 7.
Et dans la SCOP, vous êtes combien ?
Ah, dans la SCOP, on est beaucoup plus nombreux. On est 31 et voilà, 31 avec des représentations syndicales, politiques et associatives.
Et tu peux nous dire un mot sur la SCOP ? Qu'est-ce que c'est qu'une SCOP ? Parce que tout le monde ne sait pas forcément.
Alors justement, on n'est plus en SCOP parce qu'il y avait le problème qu'une SCOP, il faut absolument que les salariés soient gérants et majoritaires. Et nous, on est coopérateurs parce qu'on est devenu une coopérative dans la mesure où on n'est plus en nombre salarial de suffisant. Et il n'y avait pas de gérant salarié. Alors on va être obligé de passer en SIC. Alors là, c'est un grand débat. On pourra échanger ça à la radio une autre fois. Mais on va être obligé de transformer notre structure en SIC.
D'accord. Mais pour que les auditeurs et auditrices comprennent bien, c'est vraiment des systèmes en fait qui permettent la coopération.
Dans la structure même, déjà les salariés sont membres de la coopérative ou de la SIC, ce qui fait que c'est leur outil de travail, mais c'est en même temps une envie de participer au développement de leur outil de travail. Et après, ça permet effectivement d'avoir des structures autres qui peuvent aider à vendre ou à faire des conférences ou de faire vivre la librairie à côté.
J'insiste sur ce point-là parce que ça va complètement avec la thématique du jour aussi. Hein, parce que
complètement,
tout
oui.
le monde parle de SCOP, de coopérative,
d'autogestion. Voilà.
Donc en fait, la librairie, vous êtes en plein
dedans
sur toutes les thématiques.
Voilà, tout à fait. C'est la particularité de la librairie Jean-Jacques Rousseau, qui est une librairie effectivement indépendante de toute structure extérieure et qui vive effectivement de tout ce milieu et qui a été créé pour l'éducation populaire et l'émancipation, etc. Ça a été le but de cette librairie et on le continue avec nos forces.
Mais tu fais bien de le préciser parce que cette journée aussi, enfin c'est d'ailleurs deux journées, hein, le
oui,
rassemblement d'Aiguillère. Il y a une journée vraiment forte de forum, de conférences, de projections aujourd'hui. Et puis demain, sur le plateau, c'est vraiment les témoignages de résistants
voilà.
d'hier et d'aujourd'hui,
voilà.
avec des hommages pour certains disparus très récemment.
Voilà.
Mais là, on est aussi vraiment aujourd'hui, pour le coup, avec les conférences, les projections, dans le domaine de l'éducation populaire. Donc
oui,
c'est hyper important, qui est des stands de librairie, mais il y a tout un tas d'autres stands. Il y a ATAC, oui. il y a plein d'associations diverses et variées qui militent, qui font de l'éduc pop autour de la transition politique et écologique.
Oui, tout à fait. On est en plein dedans. Et social.
Et social.
Voilà, et social.
Je te remercie en tout cas.
Rien,
et bonne fin de journée.
À bientôt.
À bientôt. Je suis toujours au rassemblement des Glières et j'ai l'honneur d'avoir en face de moi Bernard Friot, que vous connaissez puisqu'en fait on avait déjà retransmis en direct une de vos conférences au mois de janvier, qui était aussi sur invitation de la librairie Jean-Jacques Rousseau. Et là vous êtes sur le stand de la librairie aux Glières.
Aux Glières.
Pourquoi votre venue ici? Vous êtes un grand résistant, Bernard Friot?
Non, je n'ai pas cette prétention. Je suis très admiratif pour les résistants, mais ce n'est pas mon cas. Non, non, moi, j'ai été invité par les organisateurs pour un débat que j'aurai ce soir avec Samuel Churin sur la sécurité sociale, l'assurance chômage, la situation du système de santé, mais pas pour faire... un constat de tous les malheurs que la politique des gouvernements successifs ont créé dans la protection sociale, mais surtout pour faire des propositions. Hein, ce dont nous manquons aujourd'hui, c'est de propositions, et c'est ça mon souci.
Mais c'est important que vous le disiez, parce que vous le dites très souvent hein, dans vos conférences, vous le dites, il faut arrêter les jérémiades, la victimisation, et maintenant il faut aller de l'avant et proposer. Donc vous allez nous proposer quoi cet après-midi, sans déflorer complètement la conférence? Quand même, nos auditeurs ne sont pas forcément là, donc en quelques mots.
Il s'agit, ça va dépendre aussi de Samuel, parce qu'on est, c'est un jeu à deux. C'est toujours pareil pour moi, mon insistance, hein, c'est que ce que nous avons conquis, pas moi, hein, mais ce que les générations précédentes ont conquis, c'est une dissociation entre le salaire et l'emploi. Le chômage, pour des gens qui n'ont pas d'emploi, mais qui ont droit au salaire. La retraite, ils n'ont pas d'emploi, mais ils ont droit au salaire. La fonction publique, c'est un salaire attaché à la personne, pas à l'emploi. C'est d'ailleurs pour cela que les fonctionnaires ont conservé 100% de leur salaire pendant le confinement, même s'ils n'avaient rien fait. C'est le fait d'attacher les droits salariaux à la personne.
Donc c'est vraiment ce que vous appelez le salaire à vie ou le salariat à vie, contrairement au revenu universel.
Ah ben, le revenu universel, là, c'est autre chose. Hein. C'est pour s'attaquer précisément à cette grande conquête qu'est le salaire à la qualification personnelle, le salaire comme droit de la personne. Et pour revenir au paiement à l'acte, parce que dans le capitalisme, c'est le paiement à l'acte, hein, les CDD de mission, en fait, etc. Pour reposer le paiement à l'acte comme cœur de la rémunération, ce qui introduit un énorme aléa, parce que est-ce que mon activité va être validée comme productive? On l'a bien vu pendant le confinement, tous ceux qui étaient payés à l'acte, ils ont été à poil. Hein, et donc, pour rendre acceptable ce retour en arrière, il faut que chacun ait la garantie d'un filet de sécurité universel. Et c'est le revenu de base, c'est un outil de la guerre du patronat contre le salaire à la qualification personnelle.
Et vos détracteurs diraient peut-être, donc comment on le finance, ce salariat à vie que vous nous proposez, qui fait partie de vos propositions? J'aimerais que vous nous en disiez un petit peu plus sur les cotisations sociales, peut-être, en rapide.
Bien sûr, non mais là, ça repose sur une socialisation de la valeur que nous produisons et qui est déjà largement socialisée. Hein. Le salaire, c'est actuellement, c'est 45% de cotisation et 55% de salaire direct. Donc on peut aller au-delà. Alors, la capacité de financement, mais c'est évident. Quand on regarde ce qu'on appelle le revenu disponible des ménages aujourd'hui, c'est-à-dire les salaires, bénéfices, etc., après impôts, hein, plus les prestations sociales, plus les revenus de la propriété pour ceux qui ont des revenus de leur épargne, on arrive à 1500 milliards par an. Bah, divisez ça par les 50 millions de plus de 18 ans et ça vous donne 2500 euros en moyenne par mois pour tous les plus de 18 ans. C'est tout à fait possible, bien sûr. On peut avoir, alors c'est pas, il ne s'agit pas d'avoir un salaire unique de 2500 euros, mais tous les plus de 18 ans, de 18 ans à leur mort, peuvent être titulaires d'un salaire qui démarrerait par exemple au SMIC revendiqué, mettons, qui démarrerait à 1700 euros net, et puis qui pourrait être plafonné à 5000 euros, puisque un rapport de 1 à 3 à peu près, hein, hiérarchie des salaires de 1 à 3, nous pouvons parfaitement assurer, pour tous les plus de 18 ans, un salaire compris entre 1700 et 1500 euros, 5000 euros sans problème.
Et j'aimerais aussi un petit mot de vous sur ce que vous appelez la sécurité sociale de l'alimentation, qui serait un peu basée sur le même principe, mais pour l'alimentation, en quelques mots.
Oui, effectivement, hein, le mouvement ouvrier organisé qui construit le régime général de sécurité sociale en 1946, ça a permis une formidable mutation de la production de soins, par une hausse des salaires dans les années 60, une hausse des salaires qui s'est faite non pas d'abord par une hausse du salaire qui va sur le compte en banque, mais par une hausse de la cotisation sociale. On a augmenté considérablement les salaires par la cotisation, on a augmenté le taux de cotisation. Et l'assurance maladie a été en mesure de subventionner un investissement hospitalier qui était absolument énorme et de payer comme fonctionnaires les soignants hospitaliers. Et puis pour les libéraux, on a inventé la convention qui est une négociation entre les organisations professionnelles et l'assurance maladie qui définit une nomenclature d'actes et leur rémunération. Nous pouvons vraiment tout à fait faire la même chose en matière d'alimentation, c'est-à-dire augmenter les salaires en monnaie qui va sur une caisse de sécurité sociale de l'alimentation, par exemple dans la carte vitale, abonder la carte vitale de tout le monde. Et cette carte vitale, de même qu'elle ne peut être utilisée pour les soignants qu'auprès de conventionnés, ne sera utilisable qu'auprès de conventionnés pour les producteurs d'aliments, les distributeurs d'aliments, les restaurateurs. Et on va conventionner évidemment les alternatives. On ne va pas conventionner la grande distribution, on ne va pas conventionner l'agrobusiness. On va conventionner tous ces alternatifs qui sont extrêmement nombreux dans la branche, qui sont marginalisés et que nous allons sortir de la marge pour que si par exemple 100 euros par personne et par mois pour une alimentation qui ne peut être achetée qu'auprès de conventionnés, ça représente un marché de 80 milliards. 80 milliards, c'est le tiers du marché alimentaire qu'on va ôter à la grande distribution, qu'on va ôter à l'agrobusiness et qu'on va affecter à des alternatifs, aussi bien producteurs de blé ou de bière que d'outils agricoles, que distributeurs, restaurateurs, etc. Et nous allons, évidemment, ce sera sous condition, le conventionnement, que les entreprises soient les propriétaires de leurs salariés, qu'ils fassent du bio ou de l'agriculture raisonnée, en fait, etc., etc., que nous ne soyons pas dans la logique folle de l'agrobusiness. Et en retirant le tiers de son marché à Carrefour ou à Lidl, on le met en grande difficulté. Nous allons mettre en difficulté l'agrobusiness, c'est fondamental.
C'est qui le « nous » ?
Alors, « nous », c'est évidemment toutes celles et ceux qui ne se contentent pas d'être anti-capitalistes. Parce qu'il ne suffit pas d'être anti, il ne suffit pas d'être contre. Hein. parce que on peut être contre et du coup voter Le Pen. On l'a encore vu aux dernières présidentielles. Nous sommes exaspérés des politiques de Macron, à juste titre. Mais ce qu'il faut, c'est proposer une alternative. C'est absolument fondamental. Et ça, c'est le communisme. Le communisme, c'est-à-dire les chemins de la conquête de la souveraineté sur le travail, par exemple, la sécurité sociale de l'alimentation, pour que les professionnels de l'alimentation deviennent souverains sur leur travail et non pas dépendre des injonctions de l'agrobusiness.
Et du coup, le communisme, est-ce que vous en trouvez une petite partie dans la très récente NUP ou NUPES ou,
Mais bien sûr, à tout mouvement qui a comme objectif de la conquête de droits des travailleurs pour décider au travail, et communiste, puisque c'est ça le communisme, c'est que les travailleurs décident au travail, qu'on ne confie plus à la bourgeoisie capitaliste la production. Et nous sommes tous conscients aujourd'hui que confier aux capitalistes la production, c'est aller dans un mur écologique absolu.
Et vous, avec vos travaux, vous accompagnez ces démarches-là qui sont politiques, en fait, ou vous
oui.
êtes plutôt en extérieur et en...
Je suis les deux, c'est-à-dire que je suis à la fois universitaire qui écrit des bouquins. On a écrit avec Frédéric Lordon en travail, Conversation sur le communisme, qui vient de sortir La Dispute. Et puis, je suis membre de Réseau Salariat, je participe à une activité d'éducation populaire, je suis militant politique, enfin, etc., bien sûr.
Je vous remercie et bonne conférence. Merci beaucoup.
Merci. Merci.
Déjà, première question.
Bonjour, je vais bien. Sous le soleil, dans un superbe paysage et une bonne ambiance dans ce festival.
C'est la première fois que vous venez, que vous êtes invité ?
Tout à fait.
Et c'est sur quel sujet que vous intervenez ?
Moi, je viens pour deux sujets, en fait. Il y a un film qui sort sur la lutte des Ford, là où je travaillais, et donc est diffusé. Il y a un débat derrière, donc je participe à ce débat-là avec les réalisateurs et réalisatrices. Et après, il y a une conférence sur le marxisme comme philosophie de combat, et j'ai été invité à y participer vu que j'étais là. Et je ne sais pas ce que ça va donner, parce que je vais discuter avec Alain Bir et puis Isabelle Garot, qui sont des intellectuels habitués à écrire des choses. Moi non, bon, on va voir ce que ça donne, mais en tout cas ça peut être une discussion sympa.
Le marxisme, ça peut faire un peu peur, je pense aux jeunes générations. Quand tu parles de communisme et le marxisme, en fait, ils me regardent comme une vieille, comme une ringarde. Donc, en fait, c'est quoi pour vous le marxisme ?
C'est toujours difficile à donner des définitions, mais je suis pas sûr que ça fasse peur aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est là où ça peut faire peur, c'est dans le sens un peu intellectuel, le côté idéologie, philosophie, c'est de l'économie, c'est de la sociologie, tout ça mélangé. Donc, ça fait un peu peur à des gens qui n'ont pas trop l'habitude ou de lire ou de discuter de ce genre de choses-là. Mais après, ça serait ça qui peut être intéressant dans la discussion tout à l'heure, c'est comment ça peut être tout simplement des idées qui sont utiles pour résister aujourd'hui, en fait, pour se battre aujourd'hui contre ce capitalisme-là. Et donc le marxisme, ouais, c'est les idées de la lutte, en fait, avec une façon de voir la société, une façon d'analyser la société qui permet de donner des perspectives politiques, qui permet de discuter des classes sociales, de la domination d'une classe sur une autre, de la domination ou des rapports de domination, et comment on s'émancipe de ça. Donc il y a une sorte de vision de la société qui nous permet d'avoir derrière une façon de se battre. Et voilà, je ne sais pas si c'est très concret ce que je dis, mais en tout cas, c'est intéressant de scoltiner ce genre de discussion.
Et vous, dans votre parcours de militant, c'est quelque chose qui est important, toute cette question de marxisme, de lutte sociale, c'est un peu votre résistance à vous, au-delà de l'engagement politique. On vous voit aux élections présidentielles généralement, mais je pense qu'il y a toute une partie de votre vie de militant qui tourne autour de ces idées-là.
Mais oui, mais même syndicalement, parce que il y a eu, ben là je parlais de la lutte des Ford pendant des années contre la fermeture de l'usine et contre le licenciement, et même des luttes comme ça, avec le marxisme ou avec la vision de la société en lutte de classe et en domination d'une classe sur d'autres, ça permet de fixer des repères et une boussole pour la lutte, donc c'est important. Et d'ailleurs, quand on n'est pas marxiste ou quand on pense pas que la société elle est marquée par justement des rapports de domination ou des rapports de propriété, ben après on peut imaginer que finalement la société ça va mal parce qu'il y a des méchants et puis il y a des gentils et puis c'est les gentils qui se font écraser, mais ça suffit pas d'avoir cette vision là donc oui, c'est marquant, enfin ça aide à militer, je trouve. Après, des tas de militants aujourd'hui ou des militantes ne sont pas marxistes. D'ailleurs il y a les idées libertaires, hein, qui sont très très proches des idées marxistes, qui ont d'ailleurs une vision très proche de la société et donc des perspectives politiques. Mais après il y a plein de militants syndicalistes ou associatifs ou des militants politiques à gauche qui ne sont pas marxistes, mais c'est peut-être là aussi une des explications des divergences qu'il y a à gauche. C'est qu'on peut avoir aussi une vision très réformiste de la société en pensant que ça peut s'améliorer. Et quand on a une vision lutte de classe ou quand on a une vision critique du capitalisme en voyant que c'est la domination capitaliste, là on se dit non, la seule issue elle est révolutionnaire et donc c'est la remise en cause profonde et radicale de la société. Mais ce sont ces débats dont on a besoin aujourd'hui dans les milieux militants.
Et je vous ai surpris tout à l'heure en pleine discussion justement autour de la NUP. J'aimerais quand même avoir un petit mot parce que vous ne faites pas partie du soi-disant accord. Donc parce que pour vous, en fait, c'est un peu la lutte, mais pas comme vous la pensez, vous l'envisagez, c'est-à-dire plus marxiste, plus libertaire, et donc vous ne pouvez pas faire partie de ce genre d'accord, c'est ça ou...
Ben, c'est une discussion qu'on a eue avec l'AFI, parce qu'on a participé aux discussions, on a cherché un accord et on a cherché à être partie intégrante de cet accord-là, et ça n'a pas fonctionné. Et justement, peut-être que le marxisme, c'est un des points d'achoppement, parce que en fait, on pense qu'il y avait la possibilité de faire un accord plus à gauche que ce qu'il en est aujourd'hui, et donc un accord sans le Parti Socialiste, sans un parti qui était ouvertement libéral et qui n'a pas changé et continue sur les mêmes logiques politiques désastreuses. Et on pense qu'il fallait faire un accord sans le PS, et justement en s'appuyant d'autant plus sur des forces militantes combatives et sur ce qu'il y avait de plus radical à gauche. Il y avait deux options possibles, mais c'est vrai que ces deux options-là, elles peuvent relever de cette différence idéologique, c'est-à-dire de cette façon dont de voir la suite de l'histoire, quoi. Et nous, on pense que oui, il faut axer sur les luttes sociales, il faut axer sur le mouvement social, sur le fait que des millions de gens doivent prendre leurs affaires en main, doivent faire de la politique, se battre, défendre directement leurs propres intérêts. Et ça passe par des luttes radicales qui peuvent prendre appui sur des élections législatives, hein, parce que ça n'exclut pas de participer à des élections d'ailleurs, hein. On peut être dans les élections mais avec un cheminement ou avec un programme ou avec une perspective politique radicale. Et ça supposait oser faire un accord de gauche radicale, de gauche de combat. Et ça, malheureusement, la direction de l'AFI, elle a préféré s'appuyer sur le Parti Socialiste. Et nous, on pense que c'est malheureusement, ça aura des conséquences un peu compliquées pour la suite. Mais bon, nous, on quitte pas cette idée qu'il faut se battre. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est quand même en soutien de beaucoup de candidatures de la NUP, parce qu'on pense que moins Macron aura de marge de manœuvre, mieux ce sera. Mais derrière, il faut absolument discuter des luttes, de la colère qui doit s'exprimer partout et de changer radicalement cette société capitaliste.
Donc pour vous, résister, c'est vraiment aujourd'hui et demain. C'est un vrai discours d'avenir que vous me tenez là, en fait.
Ben oui, ben la résistance, elle est permanente. De toute façon, tant qu'on n'est pas sorti de cette société d'exploitation et d'oppression, il y aura des luttes et à nous, militants, militantes, d'organiser ces luttes-là, quoi. Donc oui, c'est la résistance aujourd'hui, y compris dans un processus électoral. Comment on peut faire entendre ça dans une élection? Nous, on a essayé dans la présidentielle. Et là, dans la législative, le NPA est quasiment pas de candidature. Mais le fait de participer à soutenir des candidats de la NUP, notamment de FI ou du PC, et de participer même dans certains coins à la campagne, ça nous permet aussi de, unitairement, avec des militants d'autres partis, de faire ensemble et de résister ensemble, et puis de se redonner confiance, d'avoir le moral pour se battre derrière, quoi. Donc oui, c'est permanent et on a besoin du moral, on a besoin de la confiance pour se battre.
Et une journée comme aujourd'hui, ça vous redonne de l'espoir malgré tous les combats politiques qui des fois doivent être un peu hardcore?
Mais ouais, mais c'est ça qui est bien dans ces festivals-là ou dans ces rencontres-là, c'est que en plus il fait beau, l'endroit il est superbe, il y a tout pour avoir le moral en fait. Mais ça fait, rien que de discuter, ça fait du bien de se confronter, de débattre, de voir comment on fait, parce qu'en fait ce festival-là, à travers des films, à travers des livres, là il y a Monique et Michel Pinson-Charlot qui sont juste en face de nous, il y a David Dufresne qui présente son film sur les violences policières, il y a le film sur la lutte des Ford, il y a Gilles Perret, puis il y a le film sur Georges Ibrahim Abdallah, Fedaïn, voilà, il y a Frio, il y a des débats sur le marxisme, sur le syndicalisme, sur les luttes et tout ça, et on se rencontre, il y a que dans des endroits comme ça qu'on peut se rencontrer, nous militants ou intellectuels, et il y a des sortes de connexions qui se font aussi entre intellectuels et militants comme moi par exemple. Et non, c'est important de, parce que ça fait plaisir de se voir, de discuter, et puis derrière, oui, ça fait partie d'une longue histoire qu'on écrit, comment on relève la tête, comment on retrouve de la force et comment on retrouve de la confiance. Et l'enjeu de ces festivals là oui, c'est d'aider à ça.
Mais ça, c'est une vraie bonne remarque et une vraie bonne question. C'est que je lisais, je crois que c'est Frédéric Lordon qui disait qu'à un moment donné, il manquait aussi une assise intellectuelle de gauche pour un peu fédérer, un peu donner le bâton de pèlerin pour qu'après, il y ait un vrai militantisme de base qui se fédère autour d'idées d'intellectuels. Je pense que là, en fait, à Torrent-l'Aiguillère, aujourd'hui, on est vraiment en présence de ça. C'est-à-dire, il y a des militants et puis il y a aussi des intellectuels avec leurs idées qui peuvent nous faire vibrer et nous coordonner, en fait, vers une direction commune. C'est un peu ce que vous venez chercher aussi ici, au-delà de juste participer à des conférences.
Ah ben oui, c'est sûr qu'en fait, mais comme beaucoup d'initiatives en fait qui sont sous la forme de festivals, bon là c'est un festival qui est clairement politique dans le bon sens du terme, c'est-à-dire clairement dans l'idée de résister, de se battre et de trouver des moyens de se battre. Mais après, il y a pas mal d'initiatives dans des régions, dans des villes, organisées par des associations, soit de soutien aux migrants, soit de défense des services publics, soit de féminisme ou d'antiracisme. On a toutes ces initiatives-là, qu'elles soient directement politiques ou associatives, elles restent militantes et elles aident à faire regrouper tout un milieu qui a envie de se battre, qui n'a pas envie de baisser la tête. Et à travers ce genre de rencontres-là ou d'initiatives-là, on peut imaginer que ça contribue à reconstruire le mouvement social. Et alors après, ce que dit Lordon, c'est le côté un peu phare, effectivement, d'un grand truc qui permettrait de centraliser les choses. Ça, c'est utile. On n'est pas trop en capacité de le faire aujourd'hui. Mais même si ça, on arrive à le faire, il faudrait qu'on arrive à le faire, ça n'empêche que tous ces rendez-vous-là jouent ce rôle aussi, quoi. Mais on ne sait pas par quel chemin ça va passer, à partir de quand, il y a un moment donné, il y a quelque chose qui se passe dans la société qui fait que ça se renverse complètement. Mais ça peut être en France comme ça peut être ailleurs, et heureusement d'ailleurs, hein, parce qu'on sait très bien que des choses comme ça se passent aussi en Italie, en Espagne, ou dans des pays pas loin, ou voilà, l'Amérique latine, où il y a pas mal de résistance. Et puis on l'a vu aujourd'hui, les mouvements sociaux au Liban, à Hong Kong, y compris au Yémen, même si c'est des choses très dramatiques, très graves qui se passent au Yémen avec les massacres d'une population. N'empêche qu'on voit bien aussi des tas de situations de résistance, des tas de situations où il y a des luttes, et on ne sait pas par où ça viendra, le petit déclic qui permettra à un moment donné de se dire, allez, ça y est, on renverse tout et on reconstruit un autre monde. Mais mais en tout cas, on est dans cet espoir-là.
Ouais. En tout cas, vous gardez la foi, hein. Vous avez le sourire et tout, ça fait plaisir à voir. Donc, en fait, ce genre de rassemblement, c'est fait pour ça aussi.
Ben ouais, 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 c'est sûr. Là, j'ai dit encore, hein, avec le temps qu'il fait, avec le paysage, franchement, il y a de quoi être content de ça. Et puis, il y a des bons films, il y a des bons débats. Et puis, non, mais franchement, mais en plus, se rencontrer, là, il y a les anonymes, celles et ceux qu'on se connaît pas, évidemment. Mais après, ça fait toujours plaisir de voir Monique Pinson-Charlot. Il y a David Dufresne, Gilles Perret, j'ai vu Gérard Mordilla. Enfin voilà, c'est hyper plaisant en fait de se retrouver à un moment donné, de papoter un peu, rien que se dire bonjour, se dire ça va, tu vas bien, machin. Bah, et parce qu'on sait qu'on est tous un petit élément de la résistance et des luttes, et que on a dans la diversité, on est là, et on essaie de faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui se passe bientôt, quoi.
En fin d'après-midi, je suis happée par la dernière conférence dont le thème protection sociale, l'ultime attaque de Macron suscite ma curiosité. D'autant plus que nous retrouvons sur scène Gilles Perret, réalisateur de films engagés comme La Sociale, Ma Mondialisation ou encore Debout les Femmes, ainsi que Samuel Churin, comédien, et Bernard Friot, économiste et sociologue du travail. Plus de 2 heures d'intervention dont je ne tirerai que quelques extraits pour ce reportage.
Tout ça pour vous dire que notre association et cet événement ne vit que grâce à votre générosité, et on sait qu'elle est bien présente. Et c'est aussi notre gage de liberté, puisque nous ne demandons aucune subvention, aucune aide de qui que ce soit, et même si on en demandait, c'est pas sûr qu'on en obtiendrait. Donc voilà, on vous remercie d'être venus nombreux. La conférence qu'on va vous proposer, donc en compagnie de Bernard et Samuel, s'intitule, je vais reprendre l'intitulé exact pour pas... Protection sociale, l'ultime attaque de Macron. Donc déjà, on va essayer d'éviter de prononcer des gros mots et on va essayer aussi de porter un discours un petit peu positif parce que c'est pas le tout de faire des constats. Bah, le but de ce rassemblement, c'est pas de partir plomber et puis qu'on dise il n'y a plus de solution, il n'y a plus rien à faire. Donc on sait que, notamment avec Bernard, mais aussi avec Samuel, on va essayer de porter quelque chose de positif. Donc c'est vrai que si on fait un état des lieux, si on regarde aujourd'hui, on pourrait être un petit peu sceptique quant à l'évolution de la protection sociale, de l'assurance chômage, la protection sociale au sens large, autant qu'on voit que là, on glisse vers un système individualiste pour essayer aussi de privatiser et de faire échapper à la sécurité sociale bon nombre de pentes de notre protection. Après, il y a des solutions qui existent. On voit se glisser parfois dans des discours. Emmanuel Macron, en 2018, qui disait qu'il faudrait peut-être que l'indemnisation chômage soit indexée sur l'activité économique. Donc on aurait une espèce d'indemnisation chômage qui fluctuerait un petit peu comme ça. Donc au niveau de l'intranquillité sociale, comme disait Ambroise Croizat, ce serait quand même le comble. On voit beaucoup de choses fleurir comme ça dans les discours. C'est aussi pour lutter contre cet état de fait qu'on est là aussi aujourd'hui. Il y a quand même, si on veut être un petit peu optimiste, on voit aussi que depuis quelques temps, on voit de belles choses fleurir. On commence à parler de sécurité sociale alimentaire. On voit des gens qui réfléchissent pour trouver des solutions alternatives. On voit aussi des mots qui étaient des gros mots il y a quelques années en arrière, comme la planification, comme la régulation, comme tous des mots qui étaient imprononçables, qui deviennent prononçables. Et on peut dire aussi qu'aux dernières élections présidentielles, on sent quand même un vent nouveau soufflé d'optimisme, d'espoir, et puis aussi une forte proportion de jeunesse qui ont envie de proposer autre chose d'envisager des jours heureux, comme on disait à l'époque. Donc je laisse tout d'abord la parole, peut-être on va commencer avec Samuel pour quand même faire un état des lieux, parce que avant de proposer des choses mieux, il faut dire qu'il faut quand même partir de quelque chose d'existant. Donc Samuel, je te laisse la parole.
Alors il est bon temps de se présenter, j'ai vu ça dans les autres conférences. Donc moi je m'appelle Samuel Churin, je suis comédien et je rentre dans la lutte politique en 2003 quand il nous tombe une réforme d'assurance chômage absolument inacceptable sur les intermittents du spectacle. Et là, la première chose qu'on fait avec quelques camarades, c'est qu'on étudie en profondeur la réforme. On l'étudie en profondeur. Et on voit l'immense écart entre la réalité de la réforme et ce que les médias en racontent. Et donc la première chose a été de comprendre ce qui nous arrive et de l'expliquer aux intermittents du spectacle, pour qu'ils sachent exactement ce qui va nous arriver, et puis de l'expliquer au grand public. Et ensuite, de faire des propositions. Et fort de ça, on a été très fort. On était très fort parce qu'à la fin, on est devenus les
meilleurs spécialistes de l'assurance chômage, on avait en face des gens au cabinet ministériel qui étaient réellement nettement moins forts que nous. Et le fait de savoir comment on est mangé, pourquoi on est mangé, et de décrypter en détail et de manière très, très, très précise ce qui nous arrive, c'est une chose très, très, très importante. Et donc, je pense que, enfin, je vais commencer par ça. Je vais commencer par parler du Conseil national de la résistance et de voir d'où on est parti, où on est arrivé, essayer de comprendre comment ça s'est passé et pourquoi ça s'est passé, avec la propagande qui va avec. Je voudrais rappeler les quatre, déjà, cité croisat, hein, s'unir, on est unis, pas unis, pas d'acquis, ok. Ne parler jamais d'acquis sociaux, mais de conquis sociaux, car le patronat ne désarme jamais, ça c'est la deuxième chose. Et ensuite, je voudrais vous lire cette petite déclaration qui pour moi est absolument essentielle. En mars 44, ils sont encore dans le maquis, nous, combattants de l'ombre, exigeons la mise en place d'un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence dans tous les cas où ils sont incapables de se le procurer par le travail. Dans une France libérée, nous libérerons le peuple des angoisses du lendemain. Des moyens d'existence dans tous les cas où ils sont incapables de se le procurer par le travail. Donc la sécurité sociale, qui comprend les retraites, par répartition, c'est quoi ? Quatre principes. L'unicité, hein, tous les risques sociaux, maladies, maternité sont regroupés dans une seule caisse, qui n'est plus le cas maintenant. La solidarité, donc un système de répartition entre actifs et non actifs, financé par la richesse créée dans l'entreprise. Et donc là, on a bien chacun cotise selon ses moyens et perçoit selon ses besoins, grand principe, qui est évidemment hyper attaqué. L'universalité, sous-tendu que par l'idée de soigner toute la population et de suivre dans sa santé l'individu de sa naissance à son décès, là on se rapproche clairement des droits attachés à la personne, strictement déconnectés de l'emploi dont Bernard va parler. Et puis aussi la démocratie, c'est-à-dire la volonté de confier la gestion de l'institution aux bénéficiaires eux-mêmes. C'est-à-dire qu'évidemment pour Croizat, le MEDEF n'aurait pas la parole.
Ce que Samuel vient de dire à propos de la réforme Borne, montre bien combien le fait d'attacher le salaire à la personne et non pas à l'emploi est totalement combattu par la classe dirigeante, alors qu'il y a eu beaucoup d'avancées dans ce sens-là et qu'on ne parle pas de zéro. Pour simplifier la réforme Borne, hein, si vous avez au cours des deux dernières années été dans l'emploi pendant un an et pendant un an vous n'êtes pas dans l'emploi, eh bien, c'est votre indemnisation, elle va être calculée non pas sur votre année de salaire, mais sur vos deux années de ressources, qui comportent une année sans ressources et une année de salaire. Et donc, votre indemnisation, elle va être divisée par deux. C'est en finir pour la classe dirigeante avec la dissociation progressive conquise. Hein, je sais si le statut d'intermittent du spectacle est un conquis, de la dissociation entre le droit au salaire et l'emploi. Pour les intermittents du spectacle, dès lors qu'il y a 507 heures d'emploi dans l'année, ben, il y a un droit au salaire sur toute l'année. Et dans de nombreuses autres situations, nous étions dans une situation moins avantagée, entre guillemets, que les intermittents, mais où le chômage était l'occasion de conserver son salaire alors même qu'on n'avait pas d'emploi. Et c'est ce droit-là, hein, qui lie le salaire à la personne et non pas à l'emploi, qui a toujours été contesté. Hein, parce que, évidemment, si nos droits sont liés à notre personne, nous avons infiniment plus de pouvoir, disons, que si nos droits sont liés à la bonne volonté d'un employeur. Est-ce que nous avons droit au salaire ou est-ce que nous avons droit au contrat de travail ? Quel est le préalable à la production ? Le fait qu'il y ait des employeurs qui existent et qui nous embauchent ? Et là, c'est le contrat de travail qui est premier. Ou le fait que nous soyons là, comme travailleurs, les seuls producteurs de valeur, devant décider de ce qui est produit, et là, c'est évidemment le salaire qui est la seule préalable à la production. Et donc le droit au salaire doit devenir un droit politique.
Bien. Avec Bernard, c'est la révolution avec le sourire.
Le crépuscule s'installe sur Toranglière. Je quitte le lieu. D'autres resteront toute la nuit et marcheront demain jusqu'au plateau pour écouter la parole de militants et militantes dont la voix se fera l'écho de tous les résistants d'hier et d'aujourd'hui. Ce samedi 28 mai, un autre monde semble vraiment possible. Au Glière, bien sûr, et pourquoi pas au-delà. Coton-Tige FM.
Coton-Tige FM.
Sur Alto. Vous pouvez dès à présent réécouter ce reportage sur notre site radioalto.info.